France Inter, le journal, voici Sarah Mansoura. Bonjour Sarah.
Bonjour, bonjour à tous. Bas les masques, le cri de colère des couturières, elles qui travaillent bénévolement, s'organisent pour demander une juste rémunération. À quoi vont vraiment servir les tests sérologiques si chacun, chacune ne peut pas aller en laboratoire pour une prise de sang? La Haute Autorité de Santé recommande de les utiliser notamment pour les études épidémiologiques. Dans ce journal aussi, les manifestations au Brésil contre le personnel soignant et le secteur du livre qui fait tout pour se relever après déjà un mois et demi de fermeture des librairies.
Les invités du 6-9 à 8h-10, Patricia, Martin, vous recevrez
le sociologue et anthropologue David Le Breton sur les effets du confinement.
Et à partir de 8h20, nous reviendrons sur la situation du monde de l'édition, les librairies fermées depuis la mi-mars, avec deux invités, Antoine Gallimard, le PDG des éditions Gallimard, et puis une libraire indépendante, Pauline Fouillet. Elle tient une librairie en Charente, à Ruffec. Vos questions pour nos deux invités dès maintenant, appelez le 01 45 24 7000.
France Inter. C'est un cri de colère que poussent les couturières, elles qui confectionnent à tout va des masques en tissu et des blouses pendant cette épidémie, bien souvent bénévolement. Les couturières et costumières professionnelles ne veulent plus travailler gratuitement. Bas les masques, c'est le nom de leur collectif, pour que leur effort de guerre soit rémunéré à sa juste valeur, Sébastien Sabiron.
Costumière, Christy travaillait sur un long métrage interrompu avec le confinement. Depuis, elle vit des minima sociaux et met son talent au service de la collectivité.
Moi, j'ai confectionné environ 600 masques pour les soignants, 200 masques pour soit des entreprises, soit des particuliers qui me l'ont demandé. Je pousse entre 10 et 12 heures par jour et ça ne me rapporte rien.
Et les sollicitations vont croissantes. Hôpitaux, EHPAD, entreprises, mairies qui proposent parfois de fournir le tissu mais jamais de rémunération. Tout travail mérite salaire, rappelle Christy.
Nous avons mobilisé nos machines, nos stocks, notre énergie et notre envie d'aider. Dans chaque guerre, il y a toujours eu du soutien logistique de la part des femmes qui étaient rémunérées dans les usines. Nous sommes en guerre, mais nous ne sommes pas rémunérées.
Le collectif Bas les masques demande une revalorisation et une organisation de ce travail d'usinage extrêmement dur. Jackie, sa cofondatrice.
On demande vraiment que l'État réquisitionne les ateliers, les industries, pour faire travailler les gens, que vraiment les gens soient embauchés et aient un salaire. On propose aussi, outre les industriels, les opéras, tous les ateliers, théâtres des villes, quoi. Ça ferait aussi du travail pour les intermittents qui, en ce moment, sont complètement mis à mal.
En France, la couture est une profession pratiquée à 98% par des femmes.
Un reportage de Sébastien Sabiron. Au sujet des masques, l'État supplanté par la grande distribution. La pique est lancée par Damien Abad, le chef de file des députés Les Républicains. Il critique un manque d'anticipation alors que les grandes surfaces vont vendre dès demain des millions de masques. La grande distribution, par la voix de Michel-Édouard Leclerc notamment, dément tout stock caché.
Sarah, autre élément clé de ce déconfinement en préparation, les tests sanguins.
Il ne sera pas possible d'aller en laboratoire pour faire une prise de sang. Les autorités affirment depuis plusieurs semaines que c'est inutile. On ne sait pas avec certitude si les anticorps offrent une immunité. Hier, la Haute Autorité de Santé a donné ses recommandations. Selon elle, le test sérologique doit être un complément du test PCR. Et donc réservé surtout aux enquêtes épidémiologiques, Sophie Bacherel.
Au moment du déconfinement, la France devrait commencer à tester massivement, nous disent les autorités. Des tests virologiques prescrits par le médecin en cas de symptômes ou de suspicion de Covid-19. Pour ceux qui ont déjà eu la maladie, un test d'immunité serait rassurant, mais à ce stade, il n'est pas prévu ni d'ailleurs remboursé. Les tests sérologiques de bonne qualité existent pourtant. La société Theravectis, issue de l'Institut Pasteur, par exemple, a développé un test ultra fiable, capable de détecter les anticorps neutralisants du virus. Il serait particulièrement adapté à des études épidémiologiques, selon Pierre Charneau, directeur scientifique de la start-up Theravectis.
Ces tests sérologiques sont plus utiles pour, par exemple, établir une carte d'immunité collective région par région, pour déterminer si les enfants ou les personnes qui ont eu peu de symptômes ont quand même répondu avec des anticorps neutralisants à l'infection, déterminer parmi le personnel de santé combien de personnes ont été en contact avec le virus, etc. etc. Donc c'est plus un suivi long terme, un soutien aux décisions politiques sur le déconfinement qu'un outil média pour limiter la propagation du virus.
La société est prête à mettre sa technologie à disposition d'équipes de recherche pour mener ses études. Rien n'empêche toutefois l'Institut Pasteur de transférer ce savoir-faire à d'autres entreprises pour en faire des tests personnalisés. Dans ce cas, les royalties seraient réparties entre les deux partenaires.
Sophie Bécherel, attention au relâchement. Le message d'Olivier Véran est limpide ce matin dans le journal Le Parisien. Le ministre de la Santé assure que la date du déconfinement pourrait être remise remise en question. D'autres mesures en préparation pour ce 11 mai. Le gouvernement va rendre obligatoire la quatorzaine pour toutes les personnes qui arrivent en France. Des mesures formalisées hier lors du Conseil des ministres qui prolonge aussi de 2 mois l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet. Le texte passera demain devant les sénateurs, mardi devant les députés. Et après le 11 mai, quelles structures seront d'ailleurs ouvertes? Les centres de loisirs, par exemple, seront-ils ouverts cet été? Beaucoup attendent le feu vert sans vraiment pouvoir se préparer. Et pourtant, ces structures sont une vraie bouffée d'oxygène en été, notamment pour des jeunes issus des quartiers populaires. À Saint-Étienne, le reportage de Farida Noir.
À cette période de l'année, Philippe Chastel, le directeur de l'espace Boris Vian, un centre social dans le centre-ville, devrait avoir commencé les inscriptions pour les activités de cet été.
Typiquement en été, on va se baigner dans les lacs, on va faire de l'acrobranche.
Sauf qu'à cause du coronavirus, il ne peut rien prévoir.
Alors on ne sait absolument pas comment ça va se passer pour cet été. Et puis il faudra qu'on étudie rapidement aussi la question du mois d'août. Parce que nous, au mois d'août, on n'ouvre jamais. Or là, ce qui se passe depuis une dizaine de jours, c'est qu'on a des familles qui soit nous disent qu'elles ne pourront pas partir en vacances pour des raisons financières, ou qu'elles ne voudront pas partir en vacances pour des raisons plutôt sanitaires. Et puis d'autres où les employeurs vont faire travailler les parents. Donc c'est très très nouveau pour nous.
Il faudra peut-être aussi faire venir les enfants seulement un jour sur deux.
Si on est sur la logique de 4 mètres carrés par enfant, on ne pourra pas en prendre tant que ça.
Gilles Epal, le président de l'Amicale laïque de Michel, une structure dans un quartier défavorisé, s'inquiète lui pour les élèves les plus en difficulté depuis la fermeture des établissements scolaires.
Ces décrocheurs, si on ne fait rien, ils seront définitivement perdus.
Rouvrir les centres cet été est primordial.
Leur permettre d'avoir le matin des activités autour de la scolarité et l'après-midi de se détendre, de faire du sport. Si on ne fait rien, en septembre, on aura des centaines de jeunes et d'enfants qu'on ne pourra plus remettre dans le circuit.
La municipalité a décidé de maintenir toutes les subventions des associations, même pendant cette période incertaine.
Un reportage à Saint-Étienne de Farida Noir. Dans la plupart des pays du monde, ils sont applaudis. Mais dans le Brésil de Jair Bolsonaro, les personnels soignants sont parfois l'objet de violences. Des soutiens du président ont agressé des personnels soignants qui manifestaient vendredi, le 1er mai, comme un écho au pouvoir en place qui préfère ignorer la pandémie et qui devient de plus en plus radical, Jean-Mathieu Albertini.
Les infirmiers tentent de garder leur calme face aux provocations. Ils sont une soixantaine à manifester en brandissant des croix sur une place de la capitale. Leur but, défendre le confinement et rendre hommage aux collègues victimes du virus. Mais à défaut d'attirer l'attention du pouvoir en place, ils ont attiré des soutiens du président qui ont commencé par les menacer avant de leur hurler dessus et de les agresser.
Sale gauchiste, vous allez perdre. On va vous exterminer de cette nation. Me montre pas du doigt, sale moins que rien. Me montre pas du doigt.
Plus de peur que de mal, mais les infirmiers ont dû quitter la place. Et ce n'est pas un cas isolé. Le même jour, à São Paulo, un habitant dépité filme d'autres soutiens de Jair Bolsonaro en pleine action.
Regardez ça, une manifestation avec le son à fond, plein de drapeaux du Brésil. Et c'est organisé pile en face de l'hôpital de campagne d'Ibirapuera.
Galvanisé par les discours toujours plus radicaux de Jair Bolsonaro, ses partisans minimisent la pandémie, voire refusent d'y croire. Pour eux, tous ceux qui contredisent le président deviennent automatiquement des ennemis à faire taire. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
Des tensions cette nuit à la frontière entre les deux Corées. La Corée du Sud assure avoir essuyé des tirs de Pyongyang dans la zone démilitarisée. Séoul a riposté, mais aucune victime n'est signalée dans ce rare échange de tirs. Ils attendent la reprise de leur activité. Les libraires tentent de s'organiser. 2 mois de fermeture vont compliquer l'avenir d'un secteur déjà fragile. Écoutez le directeur de la librairie private La Sorbonne à Nice, Lilian Massoulier, au micro de Françoise Polvèche.
On peut envisager une reprise d'activité peut-être assez dynamique, à mon avis, à partir de la rentrée. D'ici là, ce sera assez compliqué. Puisque nous aussi, on fonctionne aussi avec l'affluence de la population touristique. Il va y en avoir sans doute pas du tout en termes d'étrangers sur Nice en juillet, en août. Et un petit peu de Français peut-être. Mais ça aussi, ça va nous faire perdre un petit peu d'argent. Évidemment, il va falloir encore plus piocher dans la trésorerie. On va falloir sans doute encore s'appuyer sur une partie de chômage partiel et des horaires aménagés pour l'ensemble du personnel. Je crains que dans ce secteur où c'est déjà très compliqué, c'était compliqué depuis 2-3 ans, il y a des dégâts dans les années qui viennent avec beaucoup de librairies qui pourront pas faire face.
Et les annonces pour le monde de la culture se font encore attendre. Elles seront connues mercredi. C'est une promesse d'Emmanuel Macron pour ce secteur en très grande difficulté depuis le début du confinement et l'annulation des concerts, des festivals et des fermetures des théâtres et des cinémas. Les intermittents du spectacle, notamment, attendent des réponses sur l'indemnisation chômage.
Sarah Mansoura. C'était le journal de 7h30 et mardi sur France Inter, journée d'information spéciale consacrée à la défense de la culture durement touchée par cette crise du coronavirus. Les couleurs du ciel, voici.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus, sur fondationdefrance.org.
Voici Jean-Michel Golinski de Météo France. Jean-Michel, la journée sera plutôt maussade du nord de la Seine au nord-est.
Ah, tout à fait Pierre, et les pluies qui survolent actuellement la Normandie, la région parisienne, le centre et l'Auvergne-Rhône-Alpes vont migrer en cours de journée vers le nord de la Seine, puis en fin d'après-midi vers la Lorraine et l'Alsace, tandis qu'elles vont cesser plus au sud. La vigilance orange précipitation est maintenue jusqu'en milieu de journée sur l'Isère et sur les deux départements savoyards. Notez que la journée va se dérouler sous un ciel souvent nébuleux sur les deux tiers nord du pays, sur les régions méridionales. Là, le soleil va profiter aux températures en hausse avec un maxima de 25 degrés dans le sud-ouest, 27 autour de la Méditerranée contre 15 à 17 près de la Manche et du nord de la Seine au Grand Est et une vingtaine de degrés sur les autres régions.